Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, c'est le premier jeudi du mois et puisqu'on a l'occasion d'enregistrer un podcast avec Fabien Invine, on va en profiter aussi pour présenter son jeu qui vient de sortir, Monostatos. Fabien, ça va, t'as la pêche ?
Ouais, à fond.
On est également avec Adrien.
Bonjour.
Et Natacha.
Salut.
Natacha et Thomas également.
Oh bah bonjour.
Avec Thomas,
il aime pas
Thomas
s'y oublier.
J'ai tendance à les oublier systématiquement parce que comme on a l'habitude d'être avec.
On a des micros dans les mains aussi.
Et comme ce sont tes autres toi à l'intérieur de ta tête, forcément.
Ouais, un petit peu, ouais. Thomas, c'est un petit peu mon démon et puis Flavie, c'est un petit peu mon petit ange qui parle, voilà. Comme Milou dans Tintin. Bon, quoi qu'il en soit, Fabien, tu vas nous représenter Monostatos. T'avais déjà eu l'occasion sur ce podcast de présenter le
jeu. Merci beaucoup.
Est-ce que ça vaut le coup de renvoyer l'univers ou est-ce qu'on peut les renvoyer à l'autre podcast?
On va peut-être rappeler l'univers quand même, parce que c'est un élément qui est important du jeu.
Eh bien, ça marche. Très bien. Eh bien, on y va. Fabien, alors, de quoi parle Monostatos?
Il y a un siècle, Monostatos, dieu autoproclamé de l'humanité, a tué tous les anciens dieux de son monde et s'est installé à la tête de son univers. Il a mis en place une organisation qu'on appelle le culte de Monostatos, qui est chargée de répandre obéissance, sécurité, confort, anesthésie, endormissement parmi les êtres humains. Donc désormais, les êtres humains qui jusque-là vivaient dans l'angoisse vivent désormais dans des oasis et des villes bien protégées des monstres, des fantômes du désert.
D'accord, ok. Avant, ils vivaient dans l'angoisse et le vide du désert. Et aujourd'hui, ils vivent bien encadrés dans une société qui a été bien pensée.
Voilà, où il n'y a pas de risque.
Bien pensée, bien pensante, j'ai envie de dire.
Exactement.
D'accord, ok.
Et vous jouez les derniers héros, créateurs, vivants, grandioses, rebelles, qui êtes là pour remettre en cause l'assise de Monostatos sur cet univers et... de ramener enfin du changement, du désir et de la liberté dans cet univers.
D'accord, ok.
C'est un univers façon moyenne Orient de l'Antiquité, pays biblique, des déserts, des civilisations de briques, avec des esclaves, avec toute une question autour de l'irrigation.
De grands sphinx perdus
au milieu du désert,
des ruines,
tout à fait. Voilà.
Ça fait vraiment rêver. Hein. Déjà, moi, cet univers-là m'a toujours énormément séduit. C'est pas la première fois que je le dis sur ce podcast. Est-ce que tu peux nous parler de son système maintenant ?
Alors, c'est un jeu qui s'inspire des théories de The Forge. Et en tant que tel, le système est pensé pour réaliser une expérience de jeu. Donc là, en l'occurrence, pour vous amener à vraiment avoir le plaisir de vous sentir des héros rebelles face à une société immuable et sécuritaire.
D'accord.
Donc c'est un système dans lequel on a ce qu'on appelle des tableaux, c'est-à-dire qu'à tour de rôle, les joueurs et le meneur vont mettre en place des scènes dans lesquelles les uns et les autres vont pouvoir amener des éléments de l'univers, donc les joueurs aussi ont le droit d'amener des éléments de l'univers, et donc mettre en place la scène pour permettre à leur personnage d'atteindre les objectifs qu'ils auront choisis en début de partie dans dans un lieu qui aura été décrit par le meneur.
Donc, pour nos auditeurs, on peut dire que c'est pas vraiment un jeu de rôle classique, au sens où il y a une partie de l'autorité qui est quand même un peu partagée.
Alors, ouais, ce qu'il faut retenir, c'est que surtout, il n'y a pas de scénario, dans le sens où il n'y a pas de point de passage obligé ou d'action obligée des personnages. Les personnages sont véritablement libres, étant entendu que ça se passe quand même dans un lieu qui a été déterminé, accepté par tout le monde dans la fiction.
Si je voulais résumer ton système à gros traits, ce que je pourrais dire, tu vas me dire, tu parles sous ton contrôle, que en gros, lorsque le joueur réussit son action, c'est lui qui décrit l'issue, etc. Il a une part belle qui est faite à la description de sa réussite, alors que lorsqu'il échoue son action, son jet de dés ou Monostatos, c'est donc le MJ qui prend le contrôle.
C'est vrai, mais c'est pas.
Pour résumer à gros traits.
C'est vrai, mais c'est pas le c'est pas ce qui est caractéristique dans le système. Il y a d'autres jeux.
Parce que moi, j'entends souvent des gens parler de ton jeu en disant ça, en fait.
D'accord.
En résumant de cette manière, de dire en fait que le véritable enjeu du jeu, c'est de prendre le contrôle de la narration, en fait.
Alors, de prendre le contrôle du lieu, pour les personnages. Parce que le coup de je réussis, c'est moi qui raconte l'issue et les conséquences de l'action, c'est quelque chose que j'ai repris d'Innommable de Christophe Buckley. Donc, c'est pas un truc. Non, ce qui est essentiel dans Monostatos, c'est l'idée qu'on va enrichir l'univers. C'est-à-dire que si je suis joueur, à chacun de mes tableaux, je vais pouvoir enrichir l'univers, et que ce faisant, je vais accumuler des ressources pour mon personnage, et ensuite ces ressources, donc des points de puissance, que je vais pouvoir ensuite utiliser pour raconter comment mon personnage se bat contre les sbires du meneur de jeu.
D'accord. Donc en fait, l'enjeu, c'est plutôt d'acquérir de la puissance, et cette puissance ensuite nous offre,
permet au personnage. Et en même temps,
cette
puissance se fait en développant l'esthétique de l'univers.
De la fiction.
Voilà. Donc, du coup, j'ai cru comprendre que chaque joueur définissait ses objectifs, c'est ça?
Chaque joueur décide pour son personnage des objectifs de son personnage.
Très bien. Et il y a pas risque de contradiction entre ces objectifs et du coup de conflit entre les joueurs?
Alors j'ai joué une tripotée de parties de Monostatos, y compris avec ce dernier système. Ça m'est jamais arrivé. C'est prévu dans les règles. Il y a l'idée que si jamais il y a deux objectifs qui sont en contradiction, mais étant donné qu'a priori les personnages sont tous des personnages rebelles, ils sont tous opposés à Monostatos, mais dans le principe, si jamais ça devait arriver, c'est le premier qui réalise son objectif. Pour réaliser son objectif, il faut gagner trois scènes de conflit à la suite, enfin trois affrontements à la suite. C'est le premier qui arrive, donc il peut y avoir de la concurrence entre les joueurs. Le jeu rend ça possible, mais en tout cas, c'est pas du tout ce qu'il induit. Il induit plutôt que les personnages cherchent à céder les uns les autres face au culte. Et c'est-à-dire que même s'ils ont chacun des objectifs qui sont propres, c'est-à-dire qu'ils vont chacun dans une direction, leurs histoires s'entrecroisent parce que c'est un même lieu. Mmh. Et en plus, il y a des incitations à venir céder les uns les autres, donc à au moins se soutenir réciproquement.
D'accord, ok. Ouais. Adrien, t'as eu déjà l'occasion de jouer à Monostatos?
Oui, j'ai pu y tester.
Ça, c'est important pour nos auditeurs de préciser.
Une fois, alors que, enfin, ça fait un moment.
C'est pas un
déjà.
Vrai one shot en fait, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire qu'on a déjà tous autour de cette table joué à Monostatos.
Ah, un petit peu. Enfin, moi, j'ai joué devant deux parties, une avec un ancien système.
Ah oui,
gros défaut.
C'est vraiment la préhistoire.
Ouais, on jouait les Gaulois. Enfin, globalement, on tapait les Romains sans trop de soucis. Il n'y avait pas de répondant.
Il y a un gros problème sur l'adversité à l'époque.
Mais bon, et puis j'ai joué avec une version qui doit être très très proche de la version actuelle.
Ouais, c'est ça. À l'Udesco.
Ouais, c'est ça, l'Udesco en Suisse.
Natacha,
moi j'ai joué la partie à l'Udesco. J'ai joué la partie à l'Udesco avec.
Tiens ton micro, voilà, très bien.
Pardon.
Très bien, Natacha. T'en fais pas, c'est normal.
avec Adrien. C'est la seule partie que j'ai jouée. Par contre, j'ai entre les mains la dernière version que j'ai lue là récemment.
Voilà. Donc toi, t'es déjà une lectrice du jeu en fait.
Aussi,
c'est ça l'histoire. D'accord, ok. Et toi, Tom, t'as déjà joué à Monostatos avec moi?
Non, je ne crois pas. Je n'ai pas joué. Si, je crois qu'il y a un podcast qui traîne. Je vais faire une partie il y a un petit moment.
Ouais. Et donc, mais t'as joué à l'ancienne version. T'as jamais joué à
l'ancienne
version.
Voilà, avec cette version-là, j'ai jamais fait. Donc, je vais voir les évolutions du grand maître Fabien.
Moi, je suis comme Natacha, en fait. J'ai jamais joué à la nouvelle version. J'ai lu, par contre, la nouvelle.
Je peux vous parler d'un truc?
Vas-y, je t'en prie, Fabien.
Moi, j'avoue que ça me. J'ai un gros stress sur le fait de vous présenter le jeu dans cette dernière version, parce que jusque là je pouvais me dire si jamais ça marche pas
là, c'est...
je suis toujours en développement Et là je me dis la vache, le jeu il est achevé,
mais t'en fais pas
il y a peut-être encore des trucs qui
de toute façon c'est la magie des forums et d'internet, c'est-à-dire que avec ton forum sur Silent Drift maintenant tu vas pouvoir gérer tes règles en direct, voir les questions, répondre aux gens. Et puis c'est aussi la magie de l'indépendance, si j'ose dire, c'est que l'auteur indépendant, il est directement en contact avec son lectorat. S'il y a un souci, il peut revenir dessus. J'ai envie de dire que ce que ça va t'apprendre de publier un jeu comme ça, très rapidement tu vas t'en apercevoir, c'est l'humilité. C'est qu'on se dit qu'il reste toujours des fautes d'orthographe, il y a toujours des règles qui sont un peu problématiques. Et voilà, et c'est comme ça, et c'est ça qui est beau. Hein, sinon, ce serait la fin du jeu. Et,
absolument, voilà. Il y a un jeu jamais vraiment achevé.
Tu vois, t'imagines, si vraiment il n'y avait pas de problème, ça voudrait dire que l'empire monostatien, comment on dit, monostatique.
Parce que statique,
voilà. Ton jeu ne sera jamais statique.
Exactement.
Toujours en mouvement sont les dunes. des déserts de Monostatos.
On se baigne deux fois dans le même fleuve, tout ça.
Allez, c'est sérieux. On est parti. On joue, Fabien. On y va.
On joue.
Voilà, fin de partie.
Ouais, Fabien. Fin de partie.
Yep.
Adrien, Natacha.
Oui, tout à fait.
Thomas.
Oui, fin de partie.
Vos sensations. On commence par toi, Fabien.
On va peut-être parler de ce qu'on a fait comme fiction ou comment ça se passe.
En général, on commence par la fiction.
Ok, on parle des personnages que vous avez créés.
C'est parti.
Oui. Bah écoute, alors, Thomas, vas-y.
D'accord, donc moi j'avais un personnage qui, dans son passé, en fait, faisait partie d'une tribu nomade. Qui ne croyait pas en Monostatos. Et un jour, l'une des sectes de Monostatos, qui est le secte du fer, le bras armé du dieu humain, a déporté toute ma famille et tout mon peuple, et je fus le seul survivant. Donc ça, c'était ma souffrance, parce que le personnage est caractérisé par une souffrance. Ensuite, j'avais une vertu. C'est que j'étais attentif aux autres, car personne ne doit rester seul sur la route. Donc j'avais l'idée de faire un personnage qui était proche des gens et qui voulait surtout aider les plus démunis.
Ouais, alors ce qu'il faut juste que je précise, c'est que les personnages dans Monostatos sont créés avec 5 phrases. La première des phrases, qu'on appelle la souffrance, décrit en quoi le personnage a souffert à cause du culte. La deuxième décrit sa vertu, c'est-à-dire en quoi il est admirable et ce qu'il veut changer dans le monde. Et les 3 dernières sont les singularités, qui sont des phrases qui décrivent en quoi le personnage est exceptionnel pour faire.
Qui permet donc en fait de résoudre des actions. Donc mes singularités, c'est que j'avais une ma voix fait tomber l'indifférence du monde.
Ah, elle faisait même trembler le monde sur ses piliers.
Mon errance dans le monde m'a permis de connaître les plantes qui soignent et celles qui blessent. Et mon art du oud permet de réchauffer les cœurs de tout être humain.
C'était un instrument.
Voilà, le oud est un instrument à cordes que vont voir dans Kaamelott.
Dans Kaamelott, cette série documentaire bien connue.
C'est pas faux.
Voilà. Donc j'avais vraiment un personnage centré sur les gens.
D'accord. Ça c'est nouveau ça, Fabien. Excuse-moi, juste avant que Natacha nous présente son personnage.
Ah non, et c'est un personnage très thomasien.
Non oui là.
Non, il parle des règles.
Il a des règles en fait.
Ah moi, des
quand
règles.
Quand j'avais joué la première fois, on avait des personnages pré-tirés.
Ouais, exact.
Alors du coup, pourquoi est-ce que t'as abandonné cette
Alors le, version finale? En fait, j'avais uniquement des personnages pré-tirés. C'est-à-dire, je ne donnais pas de création de jeu parce que j'ai mal l'idée que il y ait des héros uniques dans l'univers de Monostatos qui soient vraiment les seuls, et que toutes les histoires tournent toujours autour d'eux.
D'accord. Et pourquoi ce changement?
Je me suis laissé convaincre de changer. Maintenant que j'essaie de me souvenir pourquoi, je crois que c'était surtout parce que je trouvais important quand même, dans un jeu où on parle de liberté, que le jeu n'enferme pas trop les joueurs. C'est-à-dire, on dit aux joueurs, vous pouvez faire... vous faites un personnage rebelle, mais à vous de me dire ce que c'est que cette rébellion, et c'est pas moi, auteur du jeu, qui vous l'impose.
Vous voulez impliquer davantage les joueurs.
Voilà.
D'accord, très bien. Natacha, alors ton personnage.
Donc, moi je jouais une ancienne adepte de la cabale des théologues, donc, qui avait rassemblé toute une série de notes et de travaux d'études sur les anciens dieux. Et donc ma souffrance venait de là, puisque tous mes travaux et notes m'avaient été arrachés et volés.
D'accord.
Voilà, donc ma vertu c'était j'ai l'esprit critique parce que je veux attirer l'attention des autres sur les failles du culte. Donc j'avais à la base dans l'idée un personnage un peu à l'esprit un peu scientifique, analytique, voilà.
D'accord.
Mes 3 singularités, c'était après un voyage dans les montagnes de la Lune, grâce au pouvoir des constellations, je pouvais lire dans le cœur des gens. Je méprise les dieux et leurs fidèles depuis que j'ai quitté la cabale des théologues. Mmh. Et j'ai la peau d'une blancheur presque translucide.
D'accord. Sorte d'extraterrestre dans l'univers.
Un peu, c'est ça.
Ouais, ça fait vraiment sélénite.
La peau, c'était à la fois un truc qu'on s'était mis d'accord sur le fait que c'était à la fois super beau et à la fois effrayant.
D'accord, okay. Entre les deux. Adrien ?
Ouais. Alors mon personnage était donc issu d'une famille qui avait résidé sous l'Empire du Scarabée, qui a donc été ravagé par Monostatos il y a pas mal de temps.
L'Empire du Scarabée, c'est un peu les Égyptiens, si mes souvenirs sont bons.
Ouais, une sorte d'empire guerrier en fait.
Ouais, il y a des inspirations égyptiennes, mais disons que c'est surtout un empire guerrier qui
de combattants du désert en pagne et en
ouais, c'est ça.
Et en armes.
Et en armes, voilà.
Bon, enfin, de toute façon, ça c'est pas très important. L'aspect important, c'est que ma famille et moi, on avions gardé un ressentiment important à propos de Monostatos pour avoir détruit nos racines.
D'accord. Ouais.
Et que, avec le temps, Monostatos a réussi à faire tomber ma famille dans l'oubli de son passé, grâce notamment à la secte de l'éther qui vise à faire tomber les gens dans un bonheur béat et ignorant. Et du coup, ma souffrance était que ma famille a oublié qui elle était sous l'influence de la secte d'éther.
Donc déjà, première petite réflexion, on voit quand même la création de personnages pousse les gens à faire des personnages impliqués dans l'histoire de Monostatos. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire un personnage qui débarque. En fait, tout le monde a subi, tout le monde a des singularités qui font qu'il va s'opposer tôt ou tard à Monostatos.
C'est toujours des
choses extraordinaires, voilà, extra culte, j'ai envie de dire. C'est des personnages qui sont rebelles, ils ont des raisons de s'opposer à Monostatos. Ça. Et puis, surtout, ils sont un peu paranormaux, j'ai envie de dire, par rapport à.
Alors, pas tout à fait. Il y a une époque où les personnages étaient vraiment, vraiment, vraiment. Là, dans les singularités, ce que j'ai pas précisé, c'est que la première singularité est effectivement surnaturelle, c'est-à-dire que les personnages parviennent à transcender leur nature d'être humain. Et il y a deux singularités où ils sont seulement très très bons. Donc je sais pas, par exemple, ça c'est un truc qui m'a été inspiré de Princesse Mononoke d'Hayao Miyazaki, par exemple. Si on voit le personnage de Princesse Mononoke, elle est exceptionnelle dans le sens où elle parle aux dieux, elle a des amis. Enfin, ses amis sont, elle est alliée directement aux dieux, mais à côté de ça, elle est aussi très bonne dans le sens où elle est extrêmement bonne en combat et puis elle est extrêmement agile, sans être inhumaine.
Ça me fait d'entrée de jeu penser à la mythologie grecque et aux demi-dieux qui ont des vertus humaines qui pour les humains sont extraordinaires, pour les dieux plus ordinaires, mais en même temps qui sont parmi les hommes.
Voilà, c'est important que les personnages soient parmi les êtres humains, parce que j'avais une des versions dans lesquelles les personnages étaient vraiment vraiment surhumains, et en fait c'était pas intéressant parce que le personnage ne souffrait pas, et je me suis rendu compte
qu'il se détachait trop des problématiques du jeu au final.
C'est vrai, Adrien, exactement, ouais. C'est-à-dire que c'est un jeu aussi qui parle de la condition humaine. Qui parle aussi de ce que c'est être humain. Et il y a un problème aussi, c'est qu'on pouvait pas admirer son personnage.
D'accord.
C'est pas possible d'admirer Apollon, quoi. Enfin, il est trop ultime. C'est un personnage qui a souffert, qui est un peu plus complexe. Là, ça devient plus intéressant.
Très bien. Alors, on va parler maintenant de la fiction un petit peu. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pendant cette partie, dans la fiction, Thomas, avec ton personnage?
Alors, j'ai fait pas mal de choses.
À la fin, t'as réalisé un objectif quand même.
Alors voilà, c'est ça qui est à préciser. Dès qu'on a fini notre création de personnage, donc Fabien, qui était le meneur, nous a décrit le décor de début de scénario, et ensuite il a fallu qu'on choisisse un objectif.
Alors c'est pas que le décor de début de scénario, c'est le cadre du scénario. Donc c'est vraiment dans ce décor-là que tout va se passer. C'est on va ça. Pas pouvoir s'en échapper.
D'accord, ok.
Et ça tient en théorie en à peu près une page A4. Donc c'est court.
On le voit quand on l'entend, parce que moi j'ai quand même assisté à la partie, en partie. Il y a quand même, quand on entend le cadre que tu poses, on sent aussi l'ambiance, la couleur du jeu qui est posée, si j'ose dire. C'est très poétique, les descriptions que tu fais, c'est pas il y a un temple, non, c'est tu décris les dalles, le marbre. Ouais.
En fait, les règles poussent à le faire et c'est pas juste Fabien.
Voilà, exactement.
C'est que la description d'un lieu, mais ça c'est important de le préciser, c'est que les gens vont pas le savoir.
C'est ce que je voulais dire en fait.
C'est que dans les règles, il va préciser qu'un lieu va être décrit selon ce que l'on ressent avec nos cinq sens.
D'accord.
Donc d'abord, ce que la vue va nous apprendre sur le lieu, ce que l'ouïe va nous apprendre, ce que le toucher, le goût, etc.
Ça marche. Et donc Thomas, alors, ton objectif?
Donc mon objectif principal était de faire prendre conscience aux pèlerins, parce qu'on était une ville où il y avait les pèlerins, parce qu'on était à Omphalos, qui est la capitale de...
Qui est le cœur, en fait, là où se trouve Monostatos lui-même.
Voilà.
Donc de faire prendre conscience à ces pèlerins l'inhumanité du culte de Monostatos.
D'accord.
Ça, c'était mon objectif au départ, et... au fur et à mesure, on va dire, même dès le début du jeu, je suis retrouvé à rencontrer ma sœur, qui avait disparu et qui était devenue une prêtresse débutante
secte de l'éther.
Ouais.
Voilà. Donc là, mon objectif a changé et je souhaitais la libérer de sa prison et de et un peu du lavage de cerveau que la secte a pu lui offrir.
D'accord. Donc toute la fiction visait à raconter la manière dont t'allais faire en sorte que ta sœur revienne à la.
Alors ma fiction a été si vite venue là puisqu'à un moment quand j'ai découvert que ma sœur était rentrée donc dans une de ces sectes, de suite effectivement la scène que j'ai enfin le tableau parce que c'est important on parle de tableau. Le tableau que j'ai proposé c'était essayer de la comprendre et après il y a eu un conflit dans lequel je me suis fait arrêter, juger, et grâce à une brillante avocate, j'ai réussi à être libéré.
D'accord.
Donc tout a tourné effectivement sur le jeu entre mon personnage et sa sœur pour essayer de comprendre comment elle a fait pour basculer du côté de Monostatos. Et ensuite, essayer de l'extirper.
D'accord, ok. Je te voyais rire quand il parlait de l'avocate. C'était toi, l'avocate ?
Oui, c'est moi qui donc suis venue à son secours. Voilà. Donc, c'est une de mes actions pendant au cours de cette partie.
D'accord.
La deuxième principale et le deuxième affrontement, en fait, auquel j'ai participé.
En tant que personnage.
Puisque le premier donc avait mis en scène le prêtre de la secte du Vert qui avait pillé les connaissances, les recherches de mon personnage, voilà. Et donc après avoir récupéré au moins l'information de où elles étaient, puisque finalement au cours de la partie je ne les ai pas récupérées. et donc ceci grâce au personnage de Thomas, je vais décider de venir en aide au personnage de Thomas à mon tour. Voilà.
D'accord. Ok. Et ton objectif à long terme, c'était ? Rappelle-moi.
Je relis précisément parce que je l'avais formulé. Modifier la nature de la lumière de Monostatos pour montrer sa part d'ombre. Donc,
d'accord, ok. Donc la lumière là, ici, il faut l'entendre comme la connaissance, le savoir qu'il projette. Ou ces vertus magiques.
Plus ces vertus. Enfin, il y avait un côté mystique un peu en fait derrière, plus ces vertus magiques et finalement la façon dont je l'ai fait agir et dont j'ai fait avancer mon objectif, ça s'est révélé aussi l'espèce de rayonnement métaphorique en fait en plus de son rayonnement effectif.
Sa force quoi, voilà, mentale ça. Sa force de domination en fait sur le peuple. Thomas, t'avais quelque chose à ajouter?
Oui, je voulais ajouter, je suis pas sûr que tout le monde comprenne en nous écoutant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, en cours de jeu, il y a en fait un tour de jeu. Le meneur va d'abord décrire un tableau.
Oui.
Ensuite, ça va être les joueurs donc qui incarnent ces héros qui vont avoir le droit de faire deux tableaux, donc en fonction de, enfin, pour tous les joueurs.
D'accord.
Au cours de ces tableaux, on va pouvoir gagner des jetons de puissance qui vont nous permettre de pouvoir agir en moment de conflit.
D'accord.
Et quand le meneur en fait décrit un tableau, lui son objectif, parce qu'il a besoin aussi de gagner ses jetons de puissance pour pouvoir agir, il doit faire jouer une souffrance d'un des personnages.
Alors il y a d'autres manières, mais en fait il y a quatre manières. Soit il fait intervenir la souffrance d'un des personnages, soit il fait intervenir le désert, c'est-à-dire il montre comment le désert menace pour rappeler que c'est quand même un univers de désert. Soit il présente en fait pourquoi les gens ne se rebellent pas contre Monostatos, c'est-à-dire il présente l'ordre établi. Et le dernier, il peut gagner également des points de puissance. En représentant comment un personnage qui n'est pas soumis à Monostatos. En fait, c'est une manière pour le meneur d'amener du grain à moudre au joueur.
D'accord.
Surtout souvent, c'est assez facile. Hein, ce personnage qui est sur le point d'être jugé, qui est prisonnier, qui est en train de se battre, qui
Ça peut entraîner les joueurs à l'aider, les pousser au vice.
Et puis, en fait, rajouter des personnages dans l'histoire, mais des personnages du côté joueur. Parce que sinon, effectivement, tous les autres personnages sont du côté Monostatos.
D'accord, ok.
En fait, la souffrance, mettre en place la souffrance des personnages et mettre en place un personnage, c'est une incitation c'est une perche, en fait, tendue envers les joueurs pour les inciter à agir.
D'accord.
Et les deux autres, c'est-à-dire le désert et l'ordre établi, c'est une manière de présenter l'esthétique du jeu.
Donc ouais, c'est ça. Donc une succession de tableaux dans laquelle les joueurs vont devoir jouer, décrire certains événements, certaines choses.
Voilà. Alors pour, là, pour le voilà.
Acquérir des points de puissance, pardon. Ouais. J'ai du mal. Et dépenser ces points pour
pouvoir rentrer en conflit. D'accord. Alors là, on a décrit comment le meneur gagnait ses points de puissance. J'aimerais juste décrire comment les joueurs gagnent des points de puissance. En fait, quand un joueur va jouer son tableau, vous allez me dire si je me trompe, s'il arrive à faire jouer à mettre en place donc sa vertu, sa souffrance ou un rapprochement avec un personnage.
Ouais, il se lie avec un personnage d'un joueur ou un personnage secondaire ou du manœuvre, c'est pas. Voilà.
Par contre, il faut attention, il faut que ce rapprochement soit fait sur un sentiment fort, de l'amour, de la haine, genre de choses. De la confiance,
compétition, admiration ou attirance sexuelle.
Voilà.
Vraiment des sentiments forts. Dire une simple amitié, tiens, je te paye un coup, ça ne marche pas.
D'accord, très bien.
Il faut qu'il y ait une réelle application. Ça, ça nous permet de, pour
en
nous.
Il faut qu'il soit prêt à mourir pour toi presque ou à se sacrifier pour
toi. C'est un peu
pour à se battre à tes côtés en tout cas.
On va pas dire. Forcément si c'est de la haine.
Ah oui, exact, oui, excuse-moi. Voilà. Ou à se battre
contre toi. C'est pour que ça a vraiment quelque chose qui tienne la route, quoi.
Alors, d'accord. Vu que chaque. En fait, on a le droit qu'à deux tableaux quand c'est au moment des joueurs donc de dresser les tableaux. Il y a un joueur qui va décider de lancer un tableau qui lui va pouvoir donc gagner ses points soit par sa vertu, sa souffrance ou un rapprochement. Il y a aussi pour que les autres joueurs puissent éventuellement gagner des points de puissance. Ces autres joueurs vont pouvoir décrire des scènes, enfin colorer la scène, enfin le tableau mis en place en montrant donc la souffrance du peuple. Et
comment le culte et ses fidèles rendent le lieu laid en fait.
Alors là c'est intéressant pour les auditeurs, vraiment résumé, c'est finalement il y a un joueur qui joue et qui met en place une situation, tableau dans lequel il agit, dans lequel il est le héros, la caméra sur lui.
C'est pas seulement un cadre, il va décrire un peu tout en fait.
Absolument.
Et en fait globalement il va pouvoir dire ce qu'il veut jusqu'au moment où un joueur va sentir qu'il y a une opposition. Qu'il n'est pas d'accord parce que par exemple le maître de jeu va dire non là le prêtre de Monostatos que tu pousses il le prend pour une agression et on lance un conflit
là on rentre en conflit
mais jusque là le joueur effectivement l'autorité sur la scène.
En face du joueur il y a le maître de jeu qui joue finalement le culte,
l'adversité
oppressante, voilà, c'est l'oppression de Monostatos.
On peut jouer dans des lieux dans lesquels le culte est très faiblement présent aussi, c'est possible,
c'est cela. Et puis tout autour on a d'autres joueurs qui peuvent intervenir pour gagner des points eux-mêmes de puissance
et pour aider le joueur principal,
ils peuvent aider avec leur personnage, voilà. Mais ils sont surtout là, moi je trouve, en tout cas de ce que j'ai pu assister, de ce que j'ai pu constater, ils sont surtout là pour aider le MJ à renforcer encore plus l'oppression sur le personnage.
Je donne un exemple.
Lorsque tu permets, Fabien, dans ton système à un joueur de montrer en quoi la souffrance, en quoi le culte de Monostatos crée de la souffrance, tu incites quand même un joueur autour du personnage qui est en train de cadrer la scène se rassembler à côté du MJ pour encore plus.
C'est pas comme ça qu'il faut.
C'est pas tout à fait ça. En fait,
à la limite,
on peut le voir comme il donne des idées.
Oui.
C'est des idées pour le MJ éventuellement.
Participer, pour moi,
c'est surtout qu'il enrichit la scène. Elle va être plus riche parce qu'on
va
voir.
Faire les cris de la foule derrière.
C'est plus que. Moi, je vois. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pensé les choses comme ça, plus comme. En fait, les joueurs représentent le sale côté du culte, le côté moche. Mm. Et de manière à ce que ce soit pas le meneur de jeu qui soit obligé de se faire mal lui-même, en fait. Que le meneur de jeu puisse être fier de son culte et, bon, enfin, fier, on se comprend.
Natacha, je te vois. Que d'un point de vue du système de jeu, en plus, quand un joueur intervient dans le tableau d'un autre joueur, il gagne quand même un point de puissance qui va lui servir plus tard dans un affrontement contre le MJ et contre Monostatos. Donc,
de toute façon, c'est pour avantage. Tout à fait. Alors, oui, absolument. Alors, je suis d'accord avec vous, évidemment, il y a ce côté-là. Mais ce qui est intéressant, ce que je voulais souligner, en fait, c'est que le côté, quand on joue, on est seul contre Monostatos malgré tout, je trouve. Alors, sauf effectivement quand le personnage d'un joueur vient à la rescousse, etc. Mais
ça, c'est seulement lorsqu'il y a une confrontation.
Moi, je trouve que ce qui ressort de ce jeu, c'est quand même la solitude des personnages aussi. On a l'impression que le monde est contre nous. Le désert autour nous menace, tout nous menace.
Il y a cette volonté, ça m'a été parfois poser des questions à propos de ça, de dire les personnages sont des individualistes. C'est-à-dire, ok, ils peuvent s'aider, ok, ils peuvent aller se voir et intervenir dans les histoires les uns des autres, mais chacun a quand même son objectif propre.
Effectivement, ouais.
D'accord.
Et ça s'est pas mal ressenti, notamment sur mon personnage, qui lui, donc son objectif, c'était clairement mettre le point final à Monostatos. Lui, c'est un personnage très historien, voilà, pour lui, l'histoire est importante, et il voulait mettre fin à cette page de l'histoire. Et donc lui, il a commencé son aventure dans la prison, dans une prison, il a fait évader des prisonniers, puis il est parti en gros tout droit vers Monostatos, avec une sorte de vent de révolte derrière lui. Et puis il a été amené à croiser les autres personnages, mais il n'y a pas eu d'interaction forte.
D'accord.
Ça a été, je vois quelqu'un qui est mal en point, je vais essayer de l'aider, ou je viens sur les lieux qu'ils ont influencés, j'interagis avec ces lieux-là, mais il n'y a pas eu d'interaction aussi forte qu'entre les deux autres, qui s'est passé par exemple par le procès.
Il y a juste D'accord. un truc que j'aimerais préciser sur l'objectif qu'a pris Adrien, donc qui est grosso modo en finir avec Monostatos. Bon là, on jouait en one shot, donc et en plus on jouait dans Phalos, qui était vraiment le cœur du pouvoir. Donc c'est vrai que c'était une invitation. Dans le jeu, sur les objectifs aussi immenses que en finir avec Monostatos, il y a des règles pour que ça se soit pas aussi évident rapide. Et ouais, pour que ce soit pas aussi rapide, et en général ça se fait sur plusieurs parties.
Puis là finalement, ce qui t'a fait aussi accepter le trip, c'est que finalement là toi en ce moment t'es en train de publier ton jeu, t'es ouais. un petit peu au moment où tu mets le point final, et du coup c'était Adrien, t'as aussi fait un clin d'œil
c'est vrai que
à
c'est...
ce niveau-là, ça a joué aussi.
Ma toute première partie, la toute première partie de Monostatos que j'ai faite bien avant que je découvre The Forge, et non, c'était après avoir découvert Silent Drift, mais quand même, c'était une partie que j'avais commencé à Omphalos.
D'accord, ok. Donc il y a un grand cycle. L'Ouroboros.
Exactement, le serpent qui se mord la queue. Voilà, ça...
Très bien, très bien. Moi, j'avais une question à te poser, si vous me le permettez. Fabien,
ouais.
Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi dans ton jeu que ce soit celui qui échoue qui raconte son échec?
Alors ça, c'est de la tambouille de fonctionnement de règles. L'idée, c'est que si c'est moi qui lance le dé et qui mène l'action, c'est toujours mon adversaire, que je sois meneur ou joueur.
Ouais.
Donc c'est toujours l'autre qui va raconter l'issue de l'action en étant contraint par le dé. Pourquoi D'accord. ça ? Parce que ça permet à l'autre de faire réagir son personnage comme ça, à travers ça.
D'accord.
Parce que si c'est dans la réussite, bon ben c'est facile, hein, il raconte comment son personnage fait pencher la situation en sa faveur, se défend, tout ça. Si c'est dans l'échec, l'avantage c'est que il peut raconter comment son personnage se débat, n'y arrive pas peut-être, mais en tout cas c'est pas un pantin qui se laisse faire. Il peut raconter, ajouter un peu de résistance.
Et puis aussi ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand il raconte sa défaite, par exemple surtout en cas d'échec, il peut commencer à introduire les pistes de son nouveau plan d'attaque, ouais. de sa suite, et ça fait une suite plus logique, plus cohérente, qui s'enrichit au fur et à mesure.
À ce propos, il y a une règle que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est dans Monostatos, c'est le fait que au cours d'une description faite de la sorte, on n'a pas le droit de ridiculiser son personnage ou de ridiculiser ouais. l'adversaire.
Ça c'est super
important. C'est quand même un cas très fréquent dans les combats, je trouve, dans le jeu de rôle classique. C'est-à-dire qu'on se retrouve très souvent et avec des combats qui paraissent un peu ridicules parce que le MJ ne sait pas trop quoi décrire. Alors il va faire rire les joueurs en décrivant un truc un peu ridicule, une référence à un film qu'il a vu la veille. Et là, on échappe à cette côté. Et donc on reste dans le canon esthétique imposé par le jeu.
Là, l'idée,
c'est bien vu, vraiment.
C'est quand même qu'on joue des héros et qu'en fait. Alors bon, ridiculiser des héros, ça semble assez naturel, mais ne pas ridiculiser leurs adversaires, c'est-à-dire le culte, c'est pas si naturel, et en fait c'est vachement important, parce que on peut vraiment être un héros que si son ennemi est cruel, mauvais, classe.
Et si on le prend au sérieux aussi.
Donc c'est une règle qui est super importante dans un jeu qui vise à faire jouer des héros.
Bah, des scènes héroïques.
Thomas. Ouais. D'autres réflexions ? Moi j'en ai plein, mais je veux vous laisser parler aussi. Alors Adrien, déjà, est-ce que la partie était satisfaisante pour toi ? Est-ce que ça t'a plu ?
Alors la partie c'est satisfaisante. Il y avait un problème pas très clair avec les règles sur comment avancer, faire ses objectifs, parce qu'il y a moyen d'abuser et de plier la partie. Enfin. C'est un petit défaut, mais ça.
Ouais, c'est-à-dire que.
Il s'agit d'être fair play, quoi.
Ouais, il y a un peu de cette idée-là dans tout le système, quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont encadrées, il y a beaucoup de choses aussi qui sont de l'ordre de, bon, ben, ouais, soyez pas cons, quoi. Enfin,
oui, c'est ça, ouais. Parce que sinon, à côté de ça, le système, donc à part cette progression vers les objectifs qu'on peut abuser, ouais. À part ça, le système est bien pensé parce qu'en soi, il reste équilibré quel que soit le nombre de joueurs.
Ouais.
Et en laissant une tout petit avantage, je pense, aux joueurs, ouais, parce qu'ils ont notamment cette possibilité qu'on a évoqué tout à l'heure de décrire les effets néfastes du culte ou la souffrance des habitants pour gagner ces petits points dont le MJ n'a pas la symétrie.
Ouais, exact.
Et ces petits détails, c'est ça qui va faire en général que voilà, c'est ça qui va faire pencher la balance. Donc ça, c'est moi je l'ai vu assez vite hein, parce que beaucoup de maths tout ça. Hein, hein.
Que moi j'ai mis des mois à y arriver, mais parce que je suis pas du tout un.
Non, mais je comprends. Après, enfin, c'est il y a une chose qui est le remarque.
Merde.
Non, mais il y a une chose, c'est remarquer quand ça y est, et il y a une autre chose, c'est penser au bon mécanisme pour le faire. Et ça, c'est suffisamment bien pensé parce que c'est pas quelque chose qui est facile à mettre en jeu, et donc ça permet de ce petit bonus en plus.
D'accord. Moi, il y a un truc aussi qui
par rapport à ça. Bien. Je crois que c'est un Monostatos, c'est un jeu dans lequel, si on est meneur de jeu, il faut pas avoir nécessairement envie de gagner. Le but du meneur de jeu, c'est pas de gagner.
Alors ça, j'ai une question.
Mais ça, c'est toujours le cas, non?
J'en sais rien. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est dans Monostatos, le but, c'est d'opposer la meilleure adversité possible aux joueurs.
Ah, c'est pas con ce que vient de dire Adrien, quand même. Le fait que c'est toujours le cas, en fait, que le...
En tout cas, moi, c'est comme ça que ça fonctionne.
Alors
dans
justement,
les règles.
J'ai une super question à te poser à ce sujet. Et ça te fait pas chier, Fabien, depuis des années, de défendre les arguments qui sont justement ceux que tu ne défends pas avec ce jeu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Le côté, c'est que, évidemment, toi, tu voudrais défendre que les humains doivent devenir ces héros libérateurs qui doivent se battre contre les carcans de la société moderne, etc. Et finalement, depuis des années que je te connais,
je te coupe pour rappeler que la partie qu'on a jouée ensemble à l'UDESCO, t'étais joueur sur ce coup-là, et en plus c'est toi qui as atteint ton objectif.
C'est une des rares parties où j'étais joueur, mais j'avais vraiment beaucoup aimé cette partie.
Ça lui arrive aussi de jouer, c'est ça que tu veux dire.
Ouais.
Ah, c'est...
Non, mais c'est vrai que ça va être super frustrant.
C'est plaisant aussi, enfin bon, évidemment oui, la réponse est oui Romaric, mais je t'avoue que j'ai eu un vrai plaisir dans toutes les parties que j'ai jouées à poser une bonne adversité.
D'accord.
C'est-à-dire à dire en fait... Ta sœur est devenue une prêtresse de Monostatos.
Salaud! Puis,
au final, je pense que se mettre dans la position de ce que l'on aborde, c'est un moyen de mieux trouver des arguments pour encore le réattaquer dans le futur. Voir ce que le joueur te propose comme argument quand il est dans ta position.
D'accord. Mais non, mais bien sûr. Par contre, je le vois quand même souvent, Fabien, en convention ou même comme ça quand on
joue
ensemble.
C'est vrai qu'à terme, je préférerais.
Tu vois souvent les yeux baissés. Tu sembles t'auto-flageller, te condamner toi-même.
C'est vrai qu'il y a des moments où j'aurais aimé être plus souvent joueur à mon propre jeu, forcément.
Ouais, mais tu le sauras, t'en fais pas. Quand tous les MJ du monde auront acheté ton super jeu.
Ouais,
D'autres réflexions, Thomas, pas de remarques sur la partie? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a moins plu dans le jeu?
Alors,
c'est pas parce que Fabien fait partie de la cellule qu'il faut pas le tracher. Hein.
Ah, mais j'ai jamais dit ça. Là, j'aimerais juste revenir sur un point qu'on n'a pas abordé, c'est à quoi sert ces fameux jetons de puissance?
Oui, c'est vrai.
Ces jetons de puissance, en fait, vont nous servir à, quand il y a un conflit, quand on détermine qu'il y a un conflit, pouvoir avoir une initiative. En fait, quand on doit lancer des dés, on va dépenser un jeton pour effectuer le jet. Donc évidemment, pour pouvoir effectuer le jet, il faut quand même en plus avoir décrire les actions de notre personnage.
Que ce soit crédible,
voilà, fictionnellement. Faut que ce soit crédible, voilà, faut créer de la fiction. Ensuite, quand on jette par défaut un des 6, on va pouvoir augmenter le nombre de dés à lancer grâce à nos singularités. C'est-à-dire qu'on a 3 singularités. C'est-à-dire que si on décide de faire jouer l'une des 6 singularités, il va falloir que dans la partie fictionnelle, cette singularité soit décrite, soit mise en scène, et elle nous permet donc de lancer un dé supplémentaire.
Et c'est aussi le cas si on a des arguments qui défoncent les arguments de Monostatos.
L'adversaire.
Donc, vu qu'on a 3 singularités, on ne l'aurait utilisé qu'une seule fois par conflit, donc ça nous permet au moins d'avoir 3 jets avec 2 dés, plus on a aussi cette particularité donc avec les...
Mais ça reste limité à 3 jets quand même.
C'est toujours limité à 3G. Donc nous, on n'a pas eu le cas à ce moment-là. Et alors, ce côté de pouvoir décrire cette singularité va nous permettre, en fait, au moment de la création de personnages, de bien sélectionner les singularités en fonction des scènes qu'on souhaite jouer.
Voilà, ça c'est vrai que c'est un truc qu'il faudrait peut-être que je précise plus clairement, mais quand on crée son personnage, les singularités peuvent s'appliquer... En fait, les singularités sont toujours là pour aider un personnage à s'en sortir dans un affrontement.
Très bien.
Mais un affrontement, il peut être physique... on se bat, hein, classique. Il peut être social, dans une joute oratoire, on essaie de l'emporter rhétoriquement sur l'autre. Il peut être mystique, par exemple, comme l'objectif du personnage de Natacha, transformer la lumière de Monostatos. Il peut être artistique, c'est-à-dire faire des œuvres qui transforment complètement l'esprit des gens, enfin des trucs comme ça. En fonction des singularités qu'on veut mettre, on ira vers des scènes différentes.
Adrien. Ouais, je voulais juste donner un exemple d'une singularité qui peut permettre plein de choses. Donc j'avais par exemple moi à mes poignets et mes chevilles sont attachées de très lourdes chaînes. Ouais. Donc ça peut être à la fois utilisé comme arme et aussi comme symbolique dans notre argumentation ou quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant quand on met ces singularités de pensée. Un petit peu à cette.
Alors ça, c'est un truc sur lequel je vais revenir quand je vais parler un peu de l'univers avec Fabien, mais moi ça me fait direct penser à God of War. Et de toute façon, ce jeu me fait penser d'une manière générale à God of War.
Alors, je connais pas du tout. Je suis très peu de jeux vidéo.
D'accord. Mais enfin, c'est-à-dire la révolte métaphysique d'un homme contre les dieux. C'est ça que raconte God of War. Alors c'est ultra bourrin, ultra violent, ultra sexiste, ultra tout ce que tu veux, mais ça, en cela, ça répond au côté super bourrin de la mythologie grecque finalement, ultra violent, du sang, des divinités caricaturales, ce genre de choses. Et
je suis d'accord avec Fabien sur le fait que effectivement la mythologie n'est pas forcément un truc bourrin, mais
non, mais en tout
la
cas
mythologie
le
grecque,
jeu
en tout cas,
non, excuse-moi, oui, c'est vrai que j'ai dit ça, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que le jeu reprenait la mythologie à la sauce bourrin, mais quelque part la cruauté des dieux envers les hommes, en fait, c'est ça que je voulais dire, pardon, excuse-moi. Par contre, le jeu met ça en scène de façon ultra sanglante, ultra bourrine, etc. Mais en tout cas, il y a ce côté là en fait, c'est le côté les dieux se fichent complètement du statut des êtres humains, et lorsque les êtres humains brisent leurs chaînes et qu'ils deviennent à leur tour des demi-dieux, ils peuvent affronter les dieux, etc. Il y a ce côté parcours initiatique en fait du héros qui me fait beaucoup penser à voilà point. Et là, comme tu parlais des chaînes, je voulais dire à nos auditeurs, si vous avez aimé God of War en jeu vidéo, vous aimerez Monostatos en jeu de rôle, à mon avis. Natacha, tu voulais ajouter quelque chose ou c'était juste pour me bâcher sur les...
J'en suis vraiment désolée, mais oui.
Thomas.
Ouais, donc moi je voulais finir sur ces fameux points
les
de puissance.
Points de pouvoir.
Points de puissance.
Putain,
mais
j'arrive pas à...
Les pouvoirs, hein. Non,
c'est
de la puissance.
Ça vient d'où, points de pouvoir? Ah oui, c'est PowerPoint. C'est la traduction Google de PowerPoint. Points de pouvoir.
Donc, au moment de ces confrontations, donc en fait, au fur et à mesure que la confrontation avance, le joueur va dépenser ses points de pouvoir, le meneur va dépenser ses points. Donc l'intérêt d'avoir ces points, c'est qu'on peut évaluer la puissance des forces adverses.
Ouais, exact.
Voilà, donc ça nous a permis, c'est vrai que nous au début, ben, nous on commence sans points de pouvoir, sachant que le premier à lancer une scène, c'est le meneur, donc lui il engrange de suite des points, on se dit, bon, ben, au début, là le conflit, on va peut-être plutôt hésiter. Puis quand on commence à avoir pas mal de points de pouvoir, on se dit, bon, ben, là on peut peut-être rentrer en conflit et commencer à lui faire mal. En même temps, il y a une règle qui est super intéressante, c'est la possibilité que pendant qu'un joueur décrit son tableau, et donc on arrive à son conflit, donc pendant qu'il est en train de faire son conflit, un autre joueur peut décider de dépenser un point de pouvoir pour aider l'autre personnage.
D'accord.
Donc là, ça nous a permis, par exemple, pour la scène, quand je me suis retrouvé au tribunal,
j'ai pas vu cette scène, ouais, j'étais pas.
Mais non, t'étais pas là. Quand Natacha était plutôt en train de faire, donc était dans son amphithéâtre qui explose à la fin. Bon, ça.
C'était un délire sur le moment.
God of War.
Les personnages qui s'éloignent et puis dans leur dos le.
Monostatos.
Le chaos s'empare de l'amphithéâtre.
Donc, et à un moment, elle était dans la difficulté, commençait à plus avoir forcément beaucoup de points de pouvoir. Mon personnage a pu rentrer dans la scène afin de l'aider.
D'accord.
Prêter assistance. Donc, c'est moi qui ai dépensé mon point et j'ai pu avoir une action sur cette résolution de conflit. Donc ça, je trouve ça pas mal. D'ailleurs, on n'est pas passif sur cette résolution. On peut, à un moment ou un autre, aider le personnage.
D'accord. Ouais. Ça, c'est vraiment
c'est des scènes très importantes parce que c'est ça qui fait que le jeu ne se joue pas chacun de son côté.
Dans son coin. Et c'est la question que j'allais poser
un peu. Quelque chose qui m'a été souvent reproché, effectivement. Ouais. C'est-à-dire que comme j'ai vraiment cette envie depuis le début d'avoir des personnages individualistes. Je pense que c'est le dernier jeu de rôle dans lequel je ferai, hein, parce que ça exige tellement de contraintes sur le système, ouais. Qui fait que les personnages poursuivent un peu leur propre existence, chacun de leur côté. Avec le MJ qui au milieu, ben, jongle avec chacun. Et c'est pour ça que c'est important que les joueurs aient quelque chose à faire ait quelque chose à faire dans la scène d'un autre joueur pour pouvoir, qu'il y ait quand même une interaction et que leurs chemins se croisent.
Et puis moi j'ai trouvé qu'au niveau de la fiction c'était pas mal d'avoir justement ce héros qui d'habitude est tout seul puisse agir, et d'un coup il y a le deuxième héros qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam vient lui prêter main forte et puis s'en va tel le cowboy solitaire.
Ça c'est sympa. Natacha.
Alors moi je veux juste revenir sur les débuts de partie et en cours de partie quand on a plus de points de puissance, j'ai remarqué que c'était finalement très difficile de finir un tableau sans arriver à un affrontement. On a, en tout cas, peut-être sur ce cadre-là et cette partie-là précisément, mais dès qu'on croise des représentants du culte, on a envie, ouais, c'est, y a
c'est qu'ils sont bien foutus.
Envie, mais... voilà, c'est ça.
Ouais, je comprends. Alors, il y a une règle qui est vachement importante de ce point de vue-là.
Fabien.
C'est que ce soit un joueur ou un meneur, quand quelqu'un propose un affrontement, dit bon ben voilà, je crois que là on a un conflit, on va lancer un affrontement, l'autre a toujours le droit, et sans que ça lui coûte rien, de dire mon personnage parvient à esquiver l'affrontement.
D'accord.
Ça c'est vachement important.
Alors ce que je voulais dire en fait c'était de t'empêcher de créer un affrontement quand tu sais que tu D'accord. n'as pas les points de puissance pour le faire. Ah. C'est ce que je voulais dire, mais c'est pas un reproche, c'est juste
un constat. Tu peux reprocher, hein, vas-y.
Elle m'a fait de nombreux constats comme ça sur Sens aussi, j'ai apprécié.
Et effectivement, sur ce que disait Fabien, donc qu'on peut toujours refuser un affrontement, le fait aussi de pouvoir aider quelqu'un, c'est des points qu'il faut prendre un certain recul sur l'objectif du personnage, parce que si on y joue pour gagner, c'est-à-dire je veux remplir mon objectif, on n'a pas intérêt à aider un autre joueur parce qu'on va dépenser des points de pouvoir pour aider quelqu'un d'autre à faire son objectif. Et pareil, de son côté, le maître de jeu peut refuser des affrontements ou non refuser des affrontements et du coup ne pas permettre la progression du jeu. Donc c'est pour ça qu'il faut garder en tête que l'objectif n'est pas de gagner, mais de faire une belle histoire et que quelqu'un arrive à la fin, en fait.
D'accord, ok. Ouais. Quelqu'un doit finir le jeu. Fabien, alors, plusieurs remarques peut-être.
Ouais, moi j'aurais quand même un truc à dire et c'est pas contre vous. Hein. J'avoue que ça n'a pas été ma partie préférée.
D'accord.
Qu'il y a eu des moments de flottement. Bon, je pense que c'est parce que je suis un peu stressé vis-à-vis de ce podcast.
Ouais. C'est marrant de te voir comme ça. D'habitude, t'as la pêche, la patate, clair. Tu gueules dans les micros comme un ouf. Là, ouais.
J'ai envie de dire, mais tu sais, ça fait 4 ans que je travaille sur Monostatos, c'est peut-être un peu un truc important, mais comme toi, ça fait 10 ans que tu travailles sur Sens, je vais pas te faire ce coup-là. Mais ouais, et puis bon, je suis un peu crevé. C'est vrai que c'est quand même un jeu dans lequel il faut avoir envie de mettre plein de trucs dans la fiction, il faut que l'imagination tourne vite, donc. Là, j'étais peut-être pas au mieux de la fin.
D'accord. Moi, ce que j'ai trouvé dur aussi, c'est on a commencé à Omphalos. Et le problème d'Omphalos, c'est que Monostatos est très présent. Et on a une possibilité de gagner des points en décrivant la misère du peuple.
Ouais.
Mais à Omphalos, non, parce c'est que c'est que des fanatiques, quoi. Donc ça nous faisait aussi quelque chose en moins dur. Je trouvais qu'on a peut-être, dans ce lieu-là, en tant que, on va dire, première partie, même si c'est pas vraiment ma première partie, une petite perte de création. Donc je sais pas si c'est issu à ça.
Ouais,
ou
c'est vrai que Omphalos, on perdait aussi une complexité du culte qui est que, et ça c'est un truc que je dis bien dans l'univers, les prêtres de Monostatos sont pas des fanatiques. J'ai horreur des gens qui jouent des fanatiques religieux en jeu de rôle, je trouve que ça intéresse zéro. Les prêtres de Monostatos, c'est de très bons gestionnaires, de très bons fonctionnaires, des gens qui font tourner une grande machine. C'est de très bons administrateurs en fait. Mais c'est pas c'est des gens qui comprennent bien pourquoi Monostatos est là, parce que si on avait pas Monostatos, l'humanité se ferait bouffer par le désert, voire par les anciens dieux, enfin. Donc il y a une raison à ce que Monostatos soit là, même si à côté de ça, Monostatos c'est un dieu qui met en place un système qui est affreux. Mm-hmm. Mais c'est pas des fanatiques.
D'accord, très bien. Alors moi, avant de rentrer dans l'univers que j'adore, je voudrais encore te poser une dernière question un peu game design.
Ouais.
Est-ce que tu trouves pas que le fait que celui qui échoue raconte son échec, c'est un petit peu un problème dans Monostatos.
Mm-hmm.
Est-ce que justement, ça renforce pas le côté solitaire du joueur et du personnage contre le MJ ? Première question. Alors tu vois pas pourquoi, bien sûr.
Je vois pas.
Est-ce que c'est pas un problème disons une version faible une violation d'une version faible du principe de Shégué, qui est qu'on n'a pas le joueur ne doit pas se jouer lui-même et son adversité. Est-ce que le fait que, alors ok, c'est pas toi qui joue l'adversité du joueur en l'occurrence, alors, ça reste quand même le MJ, mais le fait de décrire soi-même ses sanctions.
Et le principe de Shégué est quelque chose de très précis. Hein, donc
je sais. Alors justement, c'est l'occasion pour toi de nous le rappeler alors, et de me bâcher. Je fais le naïf. Hein.
Donc,
fais-moi mal.
Paul Shégué, c'est un auteur de The Forge qui a écrit notamment My Life with Master. Mm-hmm. Le principe de Shégué dit quand un joueur crée sa propre adversité et la résout immédiatement, on s'ennuie un peu.
D'accord.
Donc par exemple, si je dis « Et là, je te rencontre un dragon et je lui tranche la tête !» C'est pas extraordinaire. Mmh. Si Adrien me dit
« Tu rencontres un dragon ?»«
Tu rencontres un dragon !»
Merci.
Et là, gigantesque.
Et que là, voilà, il a rajouté gigantesque. Je lui raconte, je lui tranche la tête. En fait, c'est, empiriquement, on se rend compte que c'est vachement plus intéressant. Maintenant.
Waouh, c'était très intéressant.
C'était vraiment très intéressant. Maintenant, il y a des jeux, par exemple, dans Prosopopée, tu peux poser un problème et le résoudre plus tard. Et c'est intéressant quand même parce que le problème, les autres ont eu le temps de le développer.
Mais le fait de décrire soi-même ses blessures,
c'est pas la même chose. Parce que l'adversité, elle est faite par l'action, elle est amenée par l'action même de la personne qui a lancé le dé, okay, qui a mené l'action. Donc si toi tu décris, en fait quand tu l'adversité est déjà posée, c'est-à-dire on sait, par exemple, on va prendre un exemple, c'est pas très clair. Je suis meneur. Le personnage de Thomas est face à des prêtres de Monstatos. Je raconte, les prêtres de Monstatos chargent avec leurs épées, je lance un dé, paf, réussi. Donc Thomas de raconter comment la situation tourne à son désavantage.
Donc là, les prêtres de Molostatos me font une clé de bras, me posent au sol et me posent le pied sur le visage afin de me plaquer et de ne plus pouvoir m'entendre et que je ne puisse plus parler.
Voilà. C'est bizarre que ce Thomas qui décrive cette action. Vraiment, je trouve ça chelou.
Mais moi, en fait, ce que j'aime bien dans ce principe-là, c'est, comme on disait, c'est que ça évite de caricaturer le personnage ou son adversaire. Parce qu'en fin de compte, si c'est quelqu'un d'autre, il peut plus facilement, si tu veux, par exemple, ton héros dire, bah voilà, t'es mis au sol en deux temps, trois mouvements. Non, là, tu peux prendre et dire, non, je suis héroïque,
ça
je peux faire plein d'actions.
De violer le personnage de.
Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ça le personnage reste sous le contrôle du joueur, au final, c'est ça.
Mais est-ce que c'est pas. On appelle ça le protagonisme. C'est-à-dire, ça respecte ton protagonisme, le fait d'être au centre.
D'accord, ok, mais est-ce que tu trouves pas que c'est quand même pour un jeu comme Monostatos qui veut montrer que les hommes sont dans les fers, est-ce que quelque part c'est pas une manière d'affaiblir Monostatos dès le début par rapport à
Monostatos? Le dieu lui-même?
Oui, le dieu lui-même. Enfin, moi, tu sais que je fais une confusion entre la métaphysique d'un jeu au sens cosmologique et son système de jeu. Et pour moi, en fait, quand tu donnes au joueur l'occasion de décrire son échec face à Monostatos, tu affaiblis le pouvoir de Monostatos.
Mais nous, on est pas sous l'influence de Monostatos.
Moi, les règles servent à structurer les échanges entre les participants pour sélectionner pour le conserver que les créations les plus intéressantes des participants. Donc, c'est pas la même vision des règles.
Puis c'est pareil, dire que les personnages qu'on joue, donc les héros, ne sont pas soumis à Monostatos. Justement, on le combat. Donc c'est peut-être aussi.
Oui, mais quand il gagne, t'as pas envie de faire en sorte que Monostatos te foute une grosse claque dans ta gueule.
Est-ce que Monostatos peut vraiment le faire?
Il n'y a pas une absence de synesthésie. Alors, si.
Tu moulines du concept, arrête.
Parce qu'en fait, tu confonds Monostatos devient dominant dans un affrontement avec Monostatos nous blesse. Parce qu'il y a une règle aussi pour les blessures.
D'accord.
Qui sont, je crois, des affaiblissements, c'est
ça?
Ouais,
c'est ça. Ça concerne aussi des trucs sociaux, mystiques.
Ouais, bien sûr.
Alors ça, c'est génial.
Mais en fait, l'affaiblissement, c'est un truc que le joueur choisit de subir à nouveau. Mmh. Mais par contre, la description de l'affaiblissement, c'est la liberté du MJ.
Alors ça, faut vraiment en parler de l'affaiblissement, parce que je trouve que c'est vraiment un trésor de système.
Ouais. En gros, si on revient sur les affrontements, on va jeter le dé en dépensant un point pouvoir, le MJ va faire pareil, etc., on va faire un aller-retour, et au bout d'un moment, si le joueur n'a plus de point pouvoir et qu'il est encore en situation de défaite, il peut choisir de forcer
le succès, hein, presque.
Alors, c'est pas forcer le succès, c'est choisir de se mettre en danger pour avoir une tentative de plus. Et du coup, à la clé de cela, il aura forcément un affaiblissement.
Alors attends, Adrien, je trouve que c'est faible, le maître en danger. C'est pas qu'il se met en danger, il se charcle.
Il se met en danger parce que voilà. C'est le maître de jeu qui va lui faire subir la blessure.
Il donne au meneur de jeu le droit de raconter comment son personnage va se... Parce qu'en fait, ouais, c'est ça, il prend un risque, en fait.
Alors moi, j'aimerais bien qu'on cite l'exemple qu'il y a eu dans cette partie, quand même, qui a eu lieu dès le début du jeu.
Effectivement, dès le début du jeu... En fait, j'ai fait ça plus par défi que par vraiment intention de gagner.
Adrien.
Mon personnage était donc dans la prison, il s'était laissé capturer, c'était son moyen de rentrer dans Phalos. Mm-hmm. Et du coup, il a lancé un affrontement pour essayer de se libérer de la prison. Ouais. Et par une succession de malchances, le maître du jeu a fini par se retrouver à court de points de pouvoir. Mais c'est le moment où ça s'est arrivé. Moi aussi, j'étais à court de points de pouvoir, il avait le dessus.
D'accord. Ouais.
Et du coup, j'ai choisi de me mettre en danger, c'est-à-dire, peu importe la lumière que tu me projettes au visage, ça ne m'arrêtera pas. Donc, je m'expose clairement à cette attaque en me disant, je l'ignore, je la subis, tant pis, et je jette le dé une fois de plus et j'ai gagné.
Ah, tu vois, moi, je trouve que l'héroïsme de Monostatos, il est là. Lorsque le joueur avance face à la lumière de Monostatos et qu'il choisit de se brûler les ailes pour continuer d'avancer dans la... C'est un moment très, très, très fort. Et c'est pour ça que ce principe est très bon. Et puis ensuite, il faut rajouter autre chose. C'est qu'à partir du moment où on a deux affaiblissements, on est menacé d'être retiré du jeu.
C'est-à-dire que les personnages ne meurent pas dans Monostatos, parce que la mort, c'est pas ce qui peut leur arriver de pire. Ils se soumettent. Quand un personnage a deux affaiblissements, à la fin du prochain tableau, donc du prochain tour de joueur, le personnage se soumet. Ce qui veut dire que le joueur a encore la possibilité pendant un tableau de regagner
son honneur. Mais sinon, il rentre dans le rang.
C'est ça. Il se soumet à Monostatos. Il devient un prêtre. Il devient un outil du culte, un outil surpuissant.
Même. Alors ça, d'ailleurs, c'est un peu, moi, je trouve un défaut dans Monostatos. Un vrai défaut, c'est que là, je fais pas le naïf. C'est que je trouve que Monostatos, est pas si séduisant que ça. C'est-à-dire que d'habitude, dans les jeux de rôle, les méchants sont vraiment séduisants et parfois, on est tenté de vouloir rentrer dans le rang.
Ah non, si, ils sont hyper séduisants.
Mais c'est parce que Fabien est pas motivé à le jouer, alors il commence à en avoir un peu marre.
Peut-être, mais
tu trouves ça séduisant.
Il y a eu 2-3 passages où si, tu...
Ouais, il y a que des étincelants qui me font.
Font rêver. J'ai plus les exemples en tête. Là.
Ben, les lames incandescentes, non?
Alors là, moi, c'est mon expérience de lectrice. Je fais ressortir parce que je me suis aperçue en lisant le livre de règles et de les descriptions de l'univers que c'était très... Alors, je sais pas comment t'arrives à le faire. Hein, j'ai pas analysé l'écriture ou quoi que ce soit, mais c'est très insidieux parce que même en tant que lecteur, tu te dis « Ah bah oui, finalement, il y a des côtés positifs au culte. »
Alors
après,
ça, oui.
Et alors après, tu te dis « Bah non, mais c'est pas possible. Enfin, »
Ça, je suis d'accord, mais est-ce qu'ils ont la classe? Ça peut être positif, mais est-ce qu'ils ont la classe?
Parce
qu'en fait, je confonds peut-être la classe et la coquetterie, mais en tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est que c'est bien, la sécurité, c'est bien, mais Brice Hortefeux, il a pas la classe.
Ouais, mais alors, il y a pas que ça. Par exemple, il y a eu la scène du procès où à la fin, un des joueurs a été blanchi de ce dont on l'accusait, mais au final, ce que ça montrait, c'est que la justice qu'incarne Monostatos, au final, elle marche. Si quelqu'un qui semble coupable peut être blanchi, quelque part, c'est qu'il y a quand même une justice. Donc en ça, Monostatos, c'est quand même une figure à laquelle on peut se dire, je peux y faire confiance. Même toi, joueur qui incarne la rébellion, peut ne pas être accusé et condamné.
Alors moi, un jour, je serai meneur à Monostatos. Et...
Ça va saigner, ouais.
Ouais. parce que je pense que vous n'y croyez pas à Monostatos, vraiment. Moi, je crois vraiment à Monostatos.
Ma réponse...
Moi, c'est le joueur que j'ai envie de bâcher dans ce jeu, putain.
Et c'est aussi une réponse à Natacha. C'est que... Monostatos, effectivement, les prêtres sont pas fondamentalement classe. Il y en a quelques-uns parmi eux qui imposent le respect, comme les prêtres de la secte du marbre, qui ont des espèces d'énormes masques avec plein de métaux, de la pierre, tout ce que tu veux. Il y a des prêtres qui sont très très compétents et très forts, mais c'est pas la classe qui fonde la dimension séduisante de Monostatos. Effectivement, Natacha a raison, c'est-à-dire que en tout cas, j'ai voulu écrire Monostatos en disant, ben, vous voyez, finalement, ils font ça, mais pour de bonnes raisons. C'est pas un méchant gratuit. Et c'est même, c'est difficile.
C'est même difficile de
dire que c'est un méchant, parce que c'est des espèces de réalistes, de gens qui se disent, bon, ben, on n'a pas vraiment le choix.
Mais on le sent bien. Qui a pour but de supprimer la souffrance, alors présenté comme ça, ça.
Mais on le sent bien, ça, que c'est pas vraiment des méchants, mais on sent bien qu'ils ont une cause, qu'ils ont des raisons, etc. Mais
à quel prix, quoi?
Eh ben, moi, quand je me suis retrouvé, à la scène finale, face à Monostatos, prêt à le dérouiller, il y a un des arguments de Fabien où j'ai failli dire, ben oui, ben t'as raison, écoute, je vois pas pourquoi aller plus loin, t'as raison, effectivement, tu incarnes quelque chose, tu es ton propre prisonnier, reste là
Oui, alors, tant pis, en fait. Raconter cette scène finale qui était pas, ouais, qui était pas mal du tout.
Donc pour reprendre, j'ai donc libéré des prisonniers, j'ai avancé jusqu'au centre de la ville où il y a Monostatos, j'ai repoussé un de ses derniers gardiens, un étincelant de la secte de marbre, ouais. Et je suis arrivé face à Monostatos, donc de la lumière presque solide, presque liquide dans laquelle on peut nager, remonter, que c'est un courant très fort. Et Monostatos m'avoue, me montre qu'il est prisonnier. Et qu'en fait, à l'origine, il était un petit dieu qui voulait, enfin, un dieu de la raison, mais que les marchands, en voulant l'accaparer, en fait, en voulant tout rationaliser,
et en voulant le rendre universel, en fait.
Alors, le rendre universel, c'est en fait, c'est, je pense, moi, je l'interprétais parce que les marchands qui avaient cette raison avaient une supériorité quelque part parce qu'ils pouvaient rationaliser et tout comprendre tout comment fonctionner. Et du coup, ça a cru hors de contrôle de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils pensaient à l'origine, ce dieu. Et il s'est retrouvé esclave de ses propres serviteurs.
D'accord.
Alors ça, c'est pas un secret du jeu. Ça, c'est mon interprétation à moi, Fabien.
À ce moment-là.
À ce moment-là.
Ouais, parce que
j'ai eu d'autres,
que... oui, parce que
d'autres interprétations.
Comme tu l'as dit, Fabien, j'aurais pu très bien moi aussi décrire
voilà.
Qui était vraiment Monostatos. Donc
ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est que Monostatos, ce n'est pas un jeu à secret. Ce voilà. n'est pas un jeu dans lequel il y a un univers... disons où tout
à
est
découvrir.
Fixé à l'avance
oui,
à découvrir. Voilà.
L'univers sert juste de source d'inspiration.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est de base pour influencer la couleur du jeu, si j'ose dire, et la manière dont on va ensuite raconter ses actions et son histoire, disons dans un univers comme tu l'as dit au début de ce podcast, mésopotamien, etc. D'ailleurs, je t'ai posé une question, j'aimerais bien que tu répondes devant nos auditeurs. Il y a la roue dans Monostatos?
Alors, a priori non.
A priori non. Ouais. Ça,
parce
c'est...
que
ça c'est fort, je trouve quand même.
Pour moi, un univers dans lequel il y a tellement
de sable.
Je vois ouais. pas vraiment. Alors, ils ont des Monostatos a offert les routes, des routes qui traversent le désert, qui sont inaltérables aux êtres humains. Mais pour autant, je pense pas qu'ils aient encore vraiment. Enfin, il doit y avoir la roue, mais c'est pas une technologie qui est tellement répandue parce que dès que t'as du sable et des coins rocailleux, il vaut mieux le faire ça. Il vaut mieux porter tes marchandises à dos d'esclaves ou la roue, c'est presque de la haute technologie, quoi.
D'accord. Surtout que des esclaves, t'en manques pas.
Voilà, c'est ça.
D'accord. L'univers aussi.
Alors, oui. Tu l'as même parlé de l'univers.
Non, ouais, tant qu'à faire, on va finir la scène.
Ah hein, oui, pardon.
Au final, je lui ai pété sa gueule à Monostatos. Hein, voilà,
mieux,
que ce soit clair.
Mieux que ça, en fait. Tu l'as...
Mieux que ça. Non, mieux que ça, effectivement. En fait, et là, c'était ça qui est très riche, hein, c'est que Fabien a pu donc utiliser des éléments de mon des personnages et les faire siens et l'adapter. Et donc, Monostatos, qui était prisonnier, effectivement, de ses propres disciples, moi, il me l'a représenté avec des chaînes, effectivement, des vraies chaînes, tout comme les miennes qui pendaient à mes poignets. Et du coup, mon argument final, c'était de lui montrer que mes chaînes, je pouvais les enlever. Et lui a fait de même. Et il a fini par partir dans le ciel, en fait, quittant au final tous ses disciples. Et il est devenu une étoile qui indique toujours le nord.
Voilà. Excellent. D'accord. Et donc, c'est la fin de votre partie, finalement.
C'est la partie, c'est fini. Parce
d'accord,
que,
ouais. Ok. Donc ça, c'est un gros point fort aussi de l'univers de Monostatos. C'est c'est-à-dire, il y a une forme de beauté irréelle qui émane du jeu de par tes inspirations poétiques. Que tu signales dans le jeu.
En fait prendre conscience, toi, que c'est aussi parce que j'ai un rapport à la réalité qui est particulier, si tu veux.
Bah, bien sûr.
Je suis pas convaincu que la réalité existe à 100%.
Mais ça, c'est assez bon. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand tu nous présentes le jeu, que finalement, il y a des choses à découvrir en dessous. Mais c'est nous-mêmes qui les imaginons.
Tout à fait,
et c'est nous-mêmes qui les créons, en fait, en les imaginant.
Notamment quand on écrit un lieu, par exemple.
Il y a un truc qui est énorme, c'est que le Monostatos, il a Omphalos.
Ouais.
Il triomphe, il trône sur les dieux abattus.
Ouais.
Mais c'est un dieu lui-même. Et en fait, réfléchissons bien, essayons de s'imaginer en fait ce que tu nous as raconté au début de ce podcast de façon réaliste. On n'y arrive pas. Et si on imagine de façon poétique, on n'y arrive pas non plus parce qu'on est dans les carcans. Tu vois, on est comme entre deux.
Je comprends pas tout à fait ce que tu veux dire.
Tu comprends pas. Bah, alors ça, j'arrive pas encore bien à l'expliquer, hein, Fabien. Mais moi, quand je lis ton texte. On n'est ni dans la poésie, c'est-à-dire on n'est pas dans le surréalisme de la poésie, mais on n'est pas non plus dans le réalisme il y a un temple qui est là, une route, la route 21 Jump Street devant, tu vois. On est entre les deux, en fait.
Ouais.
On a l'impression qu'on peut soulever le voile de la poésie, qu'on va y trouver de la réalité, et inversement que derrière la poésie, il y a une réalité, tu vois. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et du coup, ça crée un canon bien particulier, je trouve.
Ben, c'est de la fantaisie. Sauf que
bah moi je trouve pas.
Moi je veux dire enfin
moi je trouve pas.
Quand j'ai écrit l'univers de Monstatos, donc ça fait un moment quand même, j'étais pas très satisfait par les univers que je trouvais dans les jeux de rôle classiques parce c'était pas de la fantasy qui s'assumait pleinement. C'est-à-dire que on a trop souvent des descriptions d'univers dans lesquels tout est décrit par le menu et c'est vachement enfermant en fait.
C'est vraiment dommage qu'Emmanuel ne soit pas avec nous aujourd'hui parce que moi l'univers auquel ça me fait penser Status, c'est Agone. C'est elle notre spécialiste d'Agone.
Je connais pas.
Vraiment, c'est incroyable. Comme, c'est-à-dire, oui, de la fantasy, mais pas la fantasy, pas comme d'habitude. Parce que, en fait, il y a un côté réaliste de la magie dans la fantasy en général. Il y a un côté, le fantastique devient presque une norme. Les mages, on les engage à la taverne, etc. Non, là, on a le cul entre deux chaises, entre la poésie et le réalisme. Et il y a vraiment autre chose qui se dégage de cet univers. On est dans un autre domaine. Et en mon sens, le seul jeu qui s'en rapprocherait un peu, ce serait Agone. Et peut-être Nobilis. Peut-être Nobilis, maintenant que j'y pense. Et bon, voilà. Après, j'ai pas la science infuse des jeux, mais...
J'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire, mais... Moi, mon idée, c'était de dire, je vais pas vous dire par le menu ce que c'est que l'univers, mais je vais vous donner suffisamment de graines.
J'ai l'impression t'inventes un style en fait, enfin que
merci.
Enfin en tout cas que tu rejoins ces gens qui a une nouvelle fantasy, la fantasy poésie, je sais pas comment on pourrait l'appeler, la fantasy poétique.
Ouais, mais il y a alors ce qu'il y a c'est que t'as peut-être pas une
poème fantasy.
T'as peut-être pas t'as peut-être pas une culture de fantasy qui est assez.
Non parce que
pardon moi, parce que il y a des trucs qui sont en fantasy qui sont très peu connus, mais si tu regardes. Si tu lis quelqu'un comme Merwin Peak, la trilogie Gormenghast.
L'Ordre du Contrevent.
Alors, l'Ordre du Contrevent d'Alain Damasio, et voilà. Ça,
je vois Natacha qui opine du chef.
L'Ordre du Contrevent d'Alain Damasio, ça, c'est absolument tout, ça fait partie des...
Non, mais je pense en jeu de rôle, hein, Fabien. Je parle de jeu de rôle. C'est un podcast sur le jeu de rôle, là, pour l'instant.
je dirais jamais à quel point l'Ordre du Contrevent, ça m'a touché. En fait, si ça répond à ta question, l'Ordre du Contrevent m'a aidé à comprendre. C'est quelque chose que je comprenais, je savais déjà depuis longtemps, mais disons que d'un seul coup, j'en ai eu un exemple magistral d'un univers de fantasy qui est structuré par des idées et des concepts de philo. C'est-à-dire où on va te dire, ben en fait, l'univers te parle et la fantasy te transmet des idées de philo. Alors, comme je connais pas du tout Damasio, il me semble que c'est Nietzsche et Deleuze.
Ouais.
Je comprends un petit peu ce qu'il fait sur Nietzsche. Je connais pas du tout Deleuze. Mmh. Mais disons que ça se sent dans son univers, que son univers est structuré comme ça.
D'accord.
C'est-à-dire que on va pas tenir à ce que une description précis physique de l'univers, mais on va tenir à ce que l'ensemble de l'univers soit cohérent autour d'une structure d'idées de philo. Et ça, c'est quelque chose que j'ai complètement repris dans Monostatos. Je sais pas si ça répond à ta...
Si, peut-être un petit peu. Mais par exemple, tu vois, je pense que Sens est de cet ordre-là.
Oui.
Mais il n'a pas ta poésie.
Mais parce qu'il n'y en a pas dans la philosophie derrière Sens, j'ai l'impression.
Parce que ouais, je m'inspire pas de la même philosophie que Fabien peut-être.
Et puis comme dit, on n'a pas toi et moi le même rapport à la réalité. Donc,
l'important c'est pas la part de poésie, je pense c'est la part de message qu'il y a derrière. C'est enfin.
Je suis d'accord avec Adrien.
Tiens, il y a un truc à propos de philosophie que t'as dit dans le jeu, dans le scénar, avec un air blasé qui trahissait que tu croyais pas du tout à ce que t'étais en train de dire. T'as dit à un moment donné, le dieu de l'humanité est le dieu de chaque être humain. T'avais pas l'air d'y croire.
Bah ça c'est oui justement, c'est-à-dire que c'est Monostatos, c'est un dieu du concept d'humanité, mais il est prêt à, en réalité, comme tous les autres dieux, il est prêt à sacrifier chaque individu.
Chaque individu au prix de la collectivité.
Voilà, et il est prêt également à enfermer chaque individu dans une existence inauthentique, triste, de consommation et de travail, pour être sûr que l'ensemble de l'humanité s'en sorte.
D'accord. Donc cette qualité va bien sûr avec un défaut de ton jeu, qui est que ce jeu, Monostatos, ne plaira pas à ceux qui aiment découvrir des secrets derrière un univers.
Comme les joueurs de Sens, c'est ça ?
Ben, je me demande, est-ce qu'il va y avoir, alors, justement, c'est intéressant parce qu'on s'est rencontrés comme ça, Fabien, faut le dire aux auditeurs, pour, en toute honnêteté,
Monde du jeu 2009.
Voilà, tu pensais que, finalement, Sens était un jeu comme le tien, et on s'est aperçu que pas du tout.
Ouais, on s'est aperçu que tous les deux faire un jeu sur de la
philosophie. Sur la philosophie. Toi, tu partais de Nietzsche et de Schopenhauer, alors que moi, je partais de Wittgenstein. Mmh. Et on s'est dit, ouais, en fait, on se fait de la concurrence. Et pas du tout. Et en fait, moi, je crois qu'on va s'apercevoir que pas du tout. Mmh. Je pense que les joueurs de Monostatos ne seront pas les joueurs de Sens.
C'est très possible.
Et, et inversement, parce que c'est vraiment pas la même proposition qui est faite. Les deux jeux n'ont pas du tout, même si tous les deux, justement, sont structurés autour de la philosophie. D'abord, Sens n'a peut-être pas la poésie qu'il y a dans ton jeu.
Ouais, moi j'ai pas la même rigueur.
Voilà, c'est ça. Moi, il y a pas le côté, t'as moins le côté réaliste, physique, etc. C'est-à-dire, moi, je rassemble beaucoup de physiciens.
Mais ce que je veux dire, c'est que je prétends pas expliquer Nietzsche à travers Monostatos. Je prétends en donner un goût, peut-être, une illustration.
Natacha semble. ça se trouve, tu avais quelque chose à dire. Mais on verra s'il y a effectivement, s'il y a communication entre les deux univers. Mmh. Et j'en suis pas persuadé. Ce qui prouve qu'on se fait pas du tout concurrence, qu'on est complémentaires. Au contraire, Natacha.
Alors, si, je suis désolée, hein, mais je vais donner une interprétation que tu n'as pas de ton propre jeu.
Ça m'arrive souvent.
Sur le seul scénario de mort que j'ai eu l'occasion de jouer, moi j'y vois un minimum de poésie quand même, et je sais que je ne suis pas la seule. Donc, pas la même poésie que dans Monostatos, on est d'accord, mais il y a quelque chose derrière ça quand même.
Enfin, et moi je connais des sens qui n'ont pas encore été
révélés.
Et je sais que ça blaste en termes de poésie, que vraiment ça détruit le.
Je pense à Sens Renaissance aussi, qui est quand même la devanture
du, ouais, d'accord, du
jeu. Bien sûr, ouais. Bien sûr.
Ouais. Ça, si tu révèles tout de suite mon piège à tous mes auditeurs.
Ouais, mais ça va. Sens Chaos, ça arrive dans longtemps, donc on a le temps.
Ouais, ça va, on a le temps. Bon. Fabien, on a fait le tour, ou est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que vous voulez enfin, c'est compliqué, c'est délicat, hein, pour les auditeurs. On s'excuse, c'est vrai que bon, Fabien, c'est un ami, j'aime beaucoup ce qu'il fait.
C'est vrai qu'on est un peu jugé parti, voilà.
Je pense qu'il y a un petit défaut du jeu,
c'est faut voir d'où ça vient, cette critique, hein. Ouais.
Un petit défaut du jeu que je vois, c'est qu'il est important que le maître du jeu ait quand même bien lu, soit bien imprégné de l'univers. Ouais. Les règles suffisent pas, en fait.
C'est vrai.
Il faut vraiment avoir compris la couleur du jeu, ce qu'il faut en faire.
Faut avoir dans la tête.
Ouais, je suis parti. Il y a vraiment. Monostatos, c'est quand même au départ. J'avais envie de faire un jeu de rôle complètement traditionnel. Hein.
Mais ça se voit parce que tes descriptions sont quand même assez précises parfois. Mais
et par exemple là-dessus, à un moment, j'ai fait le choix de me dire, bah en fait, j'espère jouer sur le même mécanisme de jeu que dans les jeux de rôle traditionnels. Où la personne qui lit et qui découvre le jeu et qui l'a fait découvrir aux autres est également le meneur de jeu. Bah là, je suis parti sur le même principe en me disant, la personne qui va lire et intégrer l'univers, ce serait aussi la personne qui sera meneur de jeu. Je crois que c'est pas dit explicitement dans les règles.
Ça, c'est quand même un gros coup de pute que tu leur fais. Hein.
Parce
que si on aime Monostatos, c'est qu'a priori on aime ces héros libérateurs, et tu obliges les gens à transmettre le jeu par le biais de Monostatos, qui justement.
De toute manière, les gens qui aimeront le jeu seraient les gens qui sont déjà convaincus. Le but, c'est de convaincre les gens qui.
Oui, non, c'est sûr. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est.
C'est vrai que c'est paradoxal.
T'es en train de les pousser dans ton propre cauchemar, en fait.
On fait tous. On en fait tous des paradoxes comme ça en éditant des jeux. Non, c'est très bon, c'est très bon. Bon, bah voilà, nous ici on a aimé, hein, on serait pas autant amis avec Fabien si on n'avait pas aimé son jeu. Donc voilà, vous avez maintenant l'avis de la cellule sur Monostatos. C'est maintenant à vous de vous faire le vôtre, chers auditeurs. On va vous laisser. Jouez bien, portez-vous
bien.
Merci
beaucoup.
C'est ça qui compte. À bientôt.
À la prochaine.
À bientôt.
Ciao.
Salut.
Salut.